Aujourd'hui, nous continuons cette série d'études thématiques dont le titre est « Ne vous conformez pas au monde présent ». Ce qui nous dit, ce qui nous exhorte, Romains 12, 2. Nous allons étudier en ce qui concerne ce thème-là, le chrétien et l'écologie. Le chrétien et l'écologie. Donc, dans ce deuxième, qu'est-ce qu'on avait étudié la semaine passée, vous vous rappelez? Les animaux. Merci. Donc, les animaux. Donc, on a étudié ça la semaine passée. Qu'est-ce que la Bible dit, parle par rapport à ça? Et vous pouvez aussi aller consulter les études en ligne. Elles sont déjà en place sur notre site web. Donc, les chrétiens et l'écologie. Donc, qu'est-ce que l'écologie en réalité? Je suis allé chercher mon dictionnaire, le petit Robert. Il dit « Étude des milieux où vivent les êtres vivants », il dit, « ainsi que des rapports de ces êtres avec le milieu », c'est-à-dire le milieu où ils habitent. Mais peut-être une définition plus courante, « système visant à un meilleur équilibre entre l'homme et son environnement naturel, ainsi qu'à la protection de ce dernier ». Donc, je pense que c'est plus clair, cette définition courante, la système. Dans le petit Robert, c'est marqué « doctrine », je ne veux pas apporter à confusion, mais on peut appeler aussi « système » visant à un meilleur équilibre entre l'homme et son environnement naturel, ainsi qu'à la protection de ce dernier, c'est-à-dire l'environnement. Donc, justement, en parlant d'environnement, j'ai l'habitude que quelqu'un passe les diapositives, mais c'est moi qui le fais maintenant. L'explosion démographique a marqué le 20e siècle. Donc, la population mondiale est passée des 2 milliards d'habitants en 1930, imaginez ça, des 2 milliards d'habitants en 1930, à 6 milliards en l'an 2000. Imaginez ça, c'est le vrai nom donné, là, l'explosion démographique, c'est-à-dire la Terre s'est peuplée rapidement dans une période courte de temps. Donc, elle est en partie à cause de la dégradation de l'environnement aussi, ce problème écologique. C'est à cause de cette explosion démographique qui maintenant nous avons des problèmes avec l'écologie, avec nos systèmes, avec l'environnement. Pour nourrir cette population, c'est-à-dire en forte croissance, il a fallu développer l'agriculture et l'industrie, puis assurer la distribution à grande échelle des produits transformés. Nous pouvons le voir aussi dans la cultivation, on utilise des produits chimiques et puis ça nuit le sol aussi. Donc c'est à cause de ça que la terre est polluée pendant toutes ces années-là. On a aussi multiplié le logement. Et même maintenant, je pense que Montréal vit une crise de logements. Là. Il faut encore construire des logements pour accueillir toutes ces familles-là et aussi encadrer le travail des hommes et des femmes. On a également étendu les réseaux de transports et de communications. Donc, à cause de cette explosion démographique, on a dû changer nos façons pour les transports, pour les réseaux. Et nous sommes aussi témoins. Et toutes les choses qu'on voit à Montréal, même aussi, ils sont en train même de construire un nouveau train qui va relier l'Est, Montréal avec l'Ouest de la ville. Ces mesures ont entraîné une forte croissance de la production, de la consommation et d'énergie, et d'une pollution inévitable en réalité. Donc, ces changements, ils ont perturbé les nombreux écosystèmes de notre planète. Donc, en réalité, ça nuit à notre planète. C'est à cause de toute cette explosion démographique que maintenant nous avons besoin de plus de choses. Et vous connaissez bien le problème d'environnement au niveau des arbres qui sont coupés, même pour ce qui concerne la construction. Puis, non seulement ça, mais on estime que la population mondiale pourrait culminer à 10 à 12 milliards dans quelques années. Donc, 10 à 12 milliards, imaginez, c'est un peu le double. Il semble qu'il soit possible de nourrir cette population à condition qu'aucune perturbation majeure climatique ou politique ne survienne. Pensez-vous que ça ne va pas arriver? Je pense que ça arrive souvent, des changements climatiques, surtout dans ces derniers temps-là. Donc, mais malgré ça, on pense qu'on va pouvoir le faire, mais si tout le monde collabore pour ces problèmes d'environnement, ces problèmes écologiques que nous vivons dans les dernières 50 années. Donc, le défi aujourd'hui est de trouver des solutions agricoles, industrielles, urbaines aussi, qui nuisent le moins possible à l'environnement. Vous voyez maintenant que je pense qu'en 2030, on va commencer déjà à vendre des autos électriques. On veut finir avec les autos à essence. Donc, ils disent que tous les concessionnaires, en 2030, ils vont tous vendre des autos électriques. Imaginez ça, le changement. Et il y a deux jours, j'étais en train d'entendre à la radio que même pour produire les batteries maintenant, présentement, si on veut faire ce changement assez drastique, ça va encore polluer la Terre à cause que la fabrication de ces batteries, ça nuise aussi pour l'environnement. Donc, ça va être quoi la solution? Des voitures à base d'eau? Je ne sais pas si ça existe. Peut-être un jour. Tout en permettant de nourrir et d'abriter le plus grand nombre d'individus. Donc, c'est ça le défi, de trouver des solutions pour qu'ils puissent permettre de nourrir et abriter le plus grand nombre d'individus. Et cela sans freiner encore en plus toutes ces solutions qu'on veut trouver à cause de l'environnement, des problèmes d'environnement, vise aussi de sans freiner le progrès économique, technologique, scientifique même. C'est une définition qu'on appelle maintenant le développement durable. Donc, on essaie d'utiliser le moins possible, des meilleures façons, la technologie pour que ça puisse être possible de faire face à ce problème d'environnement. Donc, on vit vraiment une crise écologique. Et donc, les conférences internationales ont vu le jour, ont débuté avec le sommet une seule terre en 1972. Et le programme aussi des Nations Unies pour l'environnement qui a été créé dans la même année, en 1972. 20 ans plus tard, en 1992 aussi, plusieurs catastrophes écologiques a donné la conférence de Rio de Janeiro et y a rassemblé à peu près 117 chefs d'État. Donc, vous voyez, face à cette crise écologique, les pays se sont réveillés pour pouvoir trouver des solutions. Donc, le bilan du sommet aussi, on voit le bilan du sommet mondial pour le développement durable est tenu à Johannesburg et en 2002 est dans l'ensemble positif. Donc, toutes les mesures qui ont commencé à entamer les pays, ça a donné des résultats. Mais je pense que si on écoute les nouvelles, ce n'est pas encore assez. Donc, le protocole de Kyoto, vous connaissez aussi, et ça a été élaboré en 1997 sur les changements climatiques, et en particulier sur les émissions à gaz d'effet de serre, et a été ratifié par de nombreux pays. Mais malheureusement, il y a des pays qui n'ont pas voulu participer à cette collaboration entre plusieurs pays. Donc, nous assistons à la période présentement d'extinction des espèces la plus importante de tous les temps. Beaucoup d'espèces sont en train de disparaître naturelles de nos jours. Et quand je parle de nous, je parle de nous comme habitants de la Terre, ceux qui vivons sur Terre. Aussi, nous épuisons les ressources de la Terre, nous polluons l'eau douce. Nous transformons les terres fertiles en désert aussi, malheureusement, à cause de la pollution. Donc, c'est un problème actuel, c'est un problème véridique. Là. C'est vraiment ce qui arrive de nos jours. Nous abattons des forêts comme il s'y en avait pas de lendemain où nous aurons besoin de l'oxygène qu'elles produisent. Et non seulement ça, vous avez été témoin aussi, je pense que l'année passée, il y a même un incendie au Brésil qui a rasé beaucoup de forêts et les gens étaient vraiment préoccupés. Qu'est-ce qui allait arriver? Mais Dieu merci. Et vraiment, je dis que Dieu prend soin de sa création aussi. Dieu merci, cela est arrêté. Mais ça a causé beaucoup de dégâts en ce qui concerne l'environnement. Maintenant, qu'est-ce qui dit la Bible par rapport à ça? Et nous, comme chrétiens, même avant, comme je dis tantôt, il y a à peu près 50 ans qu'on voit cette problématique, et cette crise écologique. Avant de cela, il semble ne pas avoir eu beaucoup de problèmes par rapport à ça. C'est comme j'ai commencé tantôt, je pense que c'est à cause de l'explosion démographique, mais la Bible a-t-elle quelque chose à dire au sujet de l'écologie? Et comment agir en tant que chrétien? Et quelles sont les données bibliques et technologiques qui peuvent influencer notre regard sur la création et notre action pour la préserver et des effets les plus néfastes de notre civilisation contemporaine? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que le chrétien est appelé à changer ça, à améliorer ça? Et qu'est-ce que la Bible dit? Je suis né en 69, ça fait pas longtemps, mais je ne pense pas avoir entendu dans mon enfance des problèmes si graves, quoique ça a commencé déjà, mais au niveau de l'environnement. Mais je pense que dans les dernières années, comme on dit, 50 ans, donc c'est mon âge là, ouais. Depuis que je suis né, ça a commencé les problèmes d'écologie. Je suis désolé. C'est pas ma faute là, mais ça a commencé depuis à peu près 50 ans. J'ai 52 ans. Mais avant ça, je sais pas ceux qui sont nés avant 1969. Je vous demande pas de lever la main, quoique je le regarde. Oh, ben, y en a qui lèvent la main. Donc, je pense que vous avez peut-être pas entendu dans votre enfance des gros problèmes d'environnement, mais c'est là vraiment à commencer. Et il n'y a pas longtemps, il y a 50 ans seulement. Donc, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Dans un premier temps, la foi en Dieu créateur. Il faut savoir que Dieu, c'est Dieu le créateur du monde. Et comme dans la Genèse 1:1, d'emblée, la Bible commence avec ce premier verset, il dit, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Et c'est sous-entendu ici qu'après, on va voir là, que Dieu créa l'homme et tout ce qu'il y a dans la terre aussi, les arbres, les animaux. Mais au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est toi, Éternel, dit Néhémie 9:6. On va l'étudier dans quelques semaines. C'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux et toute leur armée. La terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. À tout cela, tu donnes la vie et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Je pense que ce verset est clair en ce qui concerne le fait que c'est Dieu le Créateur, c'est Dieu qui a fait la terre. Nous vivons dans cette terre que Dieu a créée. Et nous le voyons aussi, si vous allez dans notre site web, et dans la deuxième partie par rapport à Dieu, c'est dans notre confession de foi aussi. C'est Dieu le créateur de ce monde. À l'Éternel, la terre, c'est-à-dire que c'est à l'Éternel qu'appartient la terre. Et ce qui la remplit, le monde, ce qui l'habite, c'est-à-dire nous, les animaux, tout. Car c'est lui qui l'a fondée sur les mers et affermie sur les fleuves. Nous croyons que Dieu est notre créateur. Psaume 24, 1 à 2. Donc, nous croyons que Dieu est notre Créateur. Ésaïe 19:5, il dit, « Maintenant, si vous écoutez ma voix, » il est en train de parler au peuple d'Israël, et par ses prophètes, il dit, « Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez et en propre entre tous les peuples, car, » qu'est-ce qu'il dit, « toute la terre est à moi. » Donc, je pense que c'est clair, Dieu est le Créateur, et il dit que toute la terre est à lui, tout lui appartient. Il faut retenir ça en tête, que tout ce qui se trouve sur la terre lui appartient. Nous devons savoir ça aussi comme chrétiens. Nous croyons que Dieu est notre créateur. Dieu n'est pas seulement notre rédempteur en Jésus-Christ, il est aussi notre créateur. Le Seigneur qui règne sur ce monde est le soutien aussi. Il n'a pas abandonné sa création. Il faut maintenir ces vérités ensemble afin de ne pas privilégier l'une au détriment de l'autre. Donc, ça veut dire qu'on sait que nous sommes, nous le répétons souvent, nous sommes citoyens de quoi? Des cieux. Nous avons l'espoir d'un jour être dans le nouveau ciel, nouvelle terre. Mais nous habitons en attendant aussi ici. Donc, il faut être conscient de ces deux vérités. Oui, Jésus-Christ, notre Sauveur, il nous a sauvés. Nous attendons de nouveaux cieux, nouvelles terres. Mais aussi, Dieu nous a mis dans cette terre-là avec une mission, un mandat que nous allons voir tantôt. Notre foi en Dieu, créateur, influence notre regard sur le monde, sachant que Dieu est le créateur. Notre regard sur le monde, sur les hommes, sur les femmes, comme sur toute créature. Donc, cette foi en Dieu comme créateur influence également notre façon de vivre, ou du moins ça doit influencer notre façon de vivre dans ce monde. Le mandat culturel, ce terme qu'on a utilisé, on utilise beaucoup les théologiens, et ce terme est utilisé pour parler de la mission que Dieu a confiée à l'homme lors de la création. Donc, si nous lisons, et c'est sûr que dans tous les thèmes qu'on va toucher prochainement, on va toujours faire référence à la création de Dieu. Dans la majorité des thèmes qu'on va toucher, et ça, c'est là, c'est la même chose qu'on a vu ici la semaine passée en ce qui concerne les animaux. Donc, Dieu les bénit et Dieu leur dit Genèse 1:28, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. » L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Pour le cultiver et le garder, prendre soin. Dans Genèse 2:15. Donc, on voit trois couplets des verbes résumant cette mission que l'homme a donnée, que Dieu a donnée à l'homme. Toujours actuel, il est toujours actuel, même malgré la chute. On va voir tantôt les conséquences de cette chute-là, mais même après la chute, de bien cultiver le jardin dans lequel nous avons été placés par Dieu au commencement. Donc, ces verbes sont multiplier et remplir, dominer et soumettre, puis cultiver et garder la terre. Donc, les hommes et les femmes, tout le monde sont appelés à remplir, dominer et cultiver la terre en communion avec Dieu. Parce que ce qui était important au début, quand il dit, le Seigneur, il les a fait à son image, selon Dieu. C'est-à-dire, en étant capable de penser et d'agir avec amour et justice. C'est-à-dire, selon Dieu, selon le Créateur. Il ne s'agit pas pour eux d'exercer leur tyrannie sur la création, mais plutôt d'en prendre soin et bien de toutes les créatures pour la gloire de Dieu. Ça, c'était vraiment le mandat au début pour l'homme et la femme. Donc, les prophètes, rappellent aux rois et aux chefs à plusieurs reprises qu'ils doivent exercer leur domination avec bienveillance et justice. Nous lisons dans Ézéchiel 34:4, il dit, « Vous n'avez pas fortifié... » Il parle des brebis, OK? Il est en train de parler des brebis à son peuple. Il dit, « Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui étaient égarées, cherché celles qui étaient perdues. Mais vous l'avez dominé avec quoi? Avec violence et avec dureté. » Avec cruauté, il y a d'autres Bibles qui le traduisent aussi. Donc, ça, c'est après la chute. Donc, le mandat culturel après la chute. Les hommes et les femmes ont été affectés dans leur relation, tant avec Dieu et aussi avec les autres, et aussi avec la nature aussi. Voyons que dans Genèse 3, quand l'homme et la femme ont péché, il y a eu des conséquences aussi pour la terre. Le travail de l'homme et de la femme devient pénible. Le ronce et les arbustes épineux envahissent le jardin, et qui est plus difficile à cultiver et à garder. Mais le mandat est toujours là, et la responsabilité est toujours là pour l'homme. Car ce qu'on peut connaître de Dieu, est manifeste pour eux, dit Romains, car Dieu le leur a manifesté. Et en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde, quand on les considère dans les ouvrages. Ça nous fait penser un peu à ces hymnes qu'on chante. Et, c'est quoi déjà? Que tu es grand, oui, c'est ça. C'est quoi le titre déjà, pardon? Dieu, que tu es grand? En tout cas, et c'est un hymne qui... Non, c'est pas... Oui, c'est le psaume de la création aussi, mais j'ai en tête... Ça va venir tantôt. Et je l'ai en espagnol, c'est bizarre. Mais donc, on voit vraiment que ce mandat a été affecté après la chute. Mais quand même, l'homme peut reconnaître le Créateur dans sa création, dans la nature. Donc la création, on peut dire, porte l'empreinte du Créateur, de ce Dieu qui a créé toutes choses. Sa signature personnelle, on pourrait dire. Les hommes et les femmes peuvent toujours reconnaître dans la nature la marque de Dieu dans son œuvre. Comme dit le psaume 19:2, que vous connaissez bien, les cieux, même on le chante, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Donc, les cieux racontent l'œuvre de ses mains. Donc, on peut reconnaître vraiment la création de Dieu par tout ce qu'il a fait. On peut observer, je ne sais pas si vous aimez des fois, je suis avec ma femme et je suis sur le pont et elle dit « Arrête un peu, je veux voir le paysage ou je veux voir à Montréal, je ne peux pas arrêter. » Mais je dis « Un jour, je vais arrêter peut-être. » Mais c'est beau des fois, on veut vraiment contempler la création, peut-être quelques... Je ne sais pas c'est où ça, ça doit être au Québec, c'est très beau. Et je pense que vous êtes témoin là, quand vous montez à Mont-Laurier, mettons, même à Mont-Tremblant, déjà vous voyez les couleurs, les feuilles qui changent. C'est vraiment ce que j'ai connu ici quand je suis venu il y a 30 ans. J'ai jamais vu ça, ces changements des couleurs. C'est vraiment beau à voir. Et aussi les fleurs, pour ceux qui aiment les fleurs aussi, il y a des sortes, de toutes les couleurs. Ah, la neige aussi. J'ai découvert la neige. Mais les paysages sont vraiment beaux. Avez-vous déjà vu quand il y a un verglas, puis l'eau reste accrochée des arbres, c'est vraiment beau à voir. C'est vraiment Dieu, le Créateur. C'est sûr que ça cause des petits problèmes des fois, comme on a eu en 98, mais c'est beau quand même, voir la neige sur les arbres. Et ça, on peut le voir dans notre pays, ici au Canada. Ça nous parle un peu, hein? Ça c'est percé, peut-être? Ça ressemble, je ne sais pas. Non, c'est pas, hein? Désolé. La prochaine fois, je vais mettre pour les gens qui viennent de la Gaspésie. Moi, j'aime beaucoup les papillons. Vraiment, j'aime beaucoup les couleurs. Et puis, ça, c'est juste une sorte, là. Il y en a plusieurs sortes de papillons. C'est beau à voir. C'est beau admirer la création de Dieu dans sa nature. Oh, c'est beau. Là, on voit un peu des verglas, c'est ça? C'est beau aussi voir ça. Et encore là, quand on monte vers Mont-Tremblant et Mont-Laurier, on voit ce genre de paysages. Oh, c'est fini. Donc, j'aurais pu mettre plusieurs autres photos, là, mais allez sur Internet et tapez « Création de Dieu », vous allez trouver beaucoup des différentes parties. Mais c'est ça notre Dieu, le Créateur du monde, celui qui a créé toutes choses. Et donc, comme dit les psaumes, la nature, les cieux parlent de ce Dieu créateur. Mais à cause de ça, la parole de Dieu dit dans Romains 1, 21-22, ils sont donc inexcusables puisqu'ayant connu Dieu, ils n'ont pas glorifié comme Dieu, ils ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans des vains raisonnements et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Malheureusement, l'homme est devenu fou et nous voyons maintenant les résultats de toutes ces choses-là. Non seulement en ce qui concerne la nature, il a voulu, à cause d'être le plus fort au niveau des pays ou du gouvernement. Et c'est un peu ça aussi qui a causé le problème que nous vivons maintenant en ce qui concerne l'écologie ou l'environnement. Ils ont abusé un peu de ressources que la Terre nous donne. Donc Dieu chargea l'homme à assujettir la création et de dominer sur elle, c'est-à-dire de la gérer et non de l'exploiter de façon exagérée. Donc les crises écologiques actuellement sont provoquées par la cupidité, l'égoïsme et la négligence de l'homme à travers de toute la vie que la Terre a maintenant. La création après la chute aussi. La création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu? Non seulement l'homme a vécu la séparation avec Dieu, il a été chassé du paradis à cause de la chute, à cause du péché, mais on voit aussi dans Romains 8 qui parle que la création aussi ça a été affecté, car la création a été soumise à la vanité, c'est-à-dire quelque chose qu'il y aura une fin, c'est la futilité, ça ne durera plus, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Avec une espérance, cette même création sera libérée. Waouh, cette même création, cette terre-là qu'on voit, qu'elle vieillit, et qu'elle est usée à cause de la pollution, de l'environnement, de l'écologie. Et avec espérance, cette même création sera libérée de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Mais par la même parole, nous lisons dans 2 Pierre 3, 7, 14, les cieux et la terre actuels sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront, mais nous attendons, selon la promesse, des nouveaux cieux et nouvelles terres, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tâche et sans défaut dans la paix. Donc, ce que nous venons de lire, c'est que cette terre aussi va être détruite. Cette terre aussi va être, en quelque sorte, transformée en une nouvelle création. C'est un peu comme nous, et je fais un parallèle un peu. C'est vrai qu'il y a un changement drastique. Un peu comme nous aussi, nos corps va être, l'apôtre Paul parle en Corinthiens 15, qui dit notre corps va être un corps incorruptible, il va revêtir l'incorruptibilité, ce corps-là. Nous le voyons en Jésus aussi, que son corps a été transformé, les disciples l'ont reconnu, mais il a été transformé dans son nouveau corps. Mais la Bible aussi parle que cette terre va être renouvelé, oui, peut-être ça va passer par une destruction importante, mais Dieu va recréer la terre, va créer de nouveaux cieux et nouvelles terres. Donc, en réalité, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Mais comment vivre cette tension-là, sachant que nous allons être transformés, notre cité n'est pas sur la terre, sinon dans les cieux, mais donc ça veut dire qu'il faut négliger la terre. Je ne crois pas parce que à la fin aussi, l'apôtre Pierre nous dit, c'est pourquoi, bien-aimé, il dit dans cette attente, efforcé d'être trouvé par lui sans tâche et sans défaut. Nous sommes en quelque sorte ici pour gérer la terre que Dieu nous a permis qu'on puisse vivre ici. Et nous, pendant que nous sommes là, nous devons être responsables de ce que Dieu nous a donné. Donc la fin n'est donc pas un prétexte pour penser qu'il n'est pas nécessaire de prendre soin des êtres humains ou de la nature dans ce monde. Au contraire, les chrétiens protégeront leur environnement car ils sont déjà au bénéfice de la réconciliation qui concerne tout entier. Donc, au contraire, nous devons prendre soin de ce que Dieu nous a donné. Donc, on est tous, si on peut dire, sur la terre, on est des colocataires, c'est-à-dire, on est tous dans la terre, on vit et pour gérer ce que Dieu nous a donné, bien administré, et nous devons faire nos efforts pour le faire, malgré, sachant que Dieu, un jour aussi, va transformer cette terre, comme il va transformer aussi nos corps. Donc, nous devrons prendre soin de la création. Et une forme de respect et de l'amour envers Dieu, qui est son auteur. Donc, voici à l'Éternel ton Dieu, appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme, dit Deutéronome 10-14. C'est la terre de Dieu. Et à cause que c'est la terre de notre Dieu, nous devons en prendre soin. Protéger l'environnement est une façon d'aimer son prochain aussi, qui vit dans cet environnement et de cet environnement aussi. Donc, je pense que les chrétiens nous sont appelés aussi à prendre soin de ce que Dieu nous a légué, des biens cultivés, des biens gérés, la terre, où nous vivons. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre à qui? Aux êtres humains. La terre appartient à Dieu. C'est à lui. Mais il a donné la terre aux êtres humains. Il nous a donné cette terre pour qu'on puisse habiter, on puisse, comment je peux dire ça là, nous jouir de tout ce qu'elle nous donne. C'est beau de voir, et, quand on voit que la terre produit, et l'herbe, et produit les fruits. Je pense qu'il y en a plusieurs qui ont dans leur maison, comment on appelle ça là? Un potager, c'est ça. Un potager, puis vous voyez, l'autre jour, il y a une sœur qui m'a dit, écoute, là, j'ai ici du basilic. C'est bon, là, le basilic, ça sent très bien, ça sent très beau. J'aime beaucoup la basilic. En tout cas, mais on peut admirer la création de Dieu, on doit prendre en soin. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, comme chrétiens? On doit aider. Il y a des consignes du gouvernement aussi qui nous exhortent à pouvoir, mettons, dans l'exemple de recycler. Oui, c'est gros, le bac de recyclage, mais on doit le faire. Pensez aussi à nos petits-enfants, nos enfants qui vont naître, qui vont hériter de cette terre. Je ne veux pas faire un discours politique. Ce n'est pas du tout ça, quoique l'environnement, c'est dans des discours politiques et les politiciens utilisent ça pour un peu attirer plus de monde. Parce que le monde a exagéré aussi en ce qui concerne la Terre. Même ils l'appellent la mère nature. Donc on dirait que maintenant, les rôles se sont inversés. Hein. Avant, l'homme exploitait tellement la Terre, puis il a tellement fait des dégâts sur la terre. Et maintenant, l'homme veut vraiment préserver la terre. Il fait tous les efforts pour préserver la terre et vouloir... Et il met un peu, on dirait, la terre en premier lieu, plus que les hommes, en question d'importance. Mais on doit, nous, comme chrétiens, faire... Maintenant, est sorti ce qu'on appelle... comment on appelle ça, là? Le bac brun, là. Ah oui... La composte, c'est ça? Ça, c'est quelque chose. Mais si on peut le faire, on doit le faire. Moi, je n'ai pas patience pour faire ça. Déjà, avec le bac de recyclage, c'est quelque chose. Mais si ça va être bon pour notre environnement, nous, je pense que nous sommes, comme chrétiens, appelés aussi à pouvoir aider dans ce sens-là. Et ça n'affecte aucunement notre... ça touche aucune doctrine non plus. Donc, on peut aider pour qu'on puisse vivre tous avec ce que Dieu nous a donné. Donc, Dieu est créateur et cela lui appartient, mais il nous délègue, il nous confie la culture, c'est-à-dire l'agriculture et le développement et d'autres choses en ce qui concerne notre environnement. Dans le cadre de la création, nous sommes les intendants, administrateurs, si on peut dire, et non les propriétaires de cette création. On est juste comme en location. Nous sommes juste en attendant qu'on va hériter de nouveaux cieux, nouvelles terres. Qu'est-ce qu'il dit? Notre Seigneur Jésus, il dit, je vous j'ai dans mon, je vous réserve un quoi, une demeure, ok, pour que vous puissiez être avec moi un jour. Donc, mais malgré ça, malgré qu'on ait des passages sur cette terre là, on doit faire attention. J'aurais voulu lire un peu ce qu'il dit. Et ça nous témoigne parce que non seulement Dieu a créé la terre, mais aussi il la préserve, il prend soin de la terre et il fait en sorte que, malgré les dégâts que l'homme a fait au niveau de l'environnement, et Dieu fait en sorte que cette terre puisse encore donner du fruit sans aller trop loin. Vous voyez, ça fait 2 ans presque qu'on est en confinement, hein, et ça fait un effet au niveau de l'environnement. Hein. Vous vous rappelez qu'on a été enfermé au moins quelques mois, pas de voiture, pas de pollution. Donc, en quelque sorte, ça a aidé un peu. Et Dieu prend soin, et Dieu travaille, il prend soin de nous. Et j'aurais voulu qu'on puisse lire le livre de Job, mais je vous invite à le lire à la maison. Et le psaume, le chapitre 37 de Job, là où l'Éternel parle et répond à Job, il lui dit que c'est lui le Créateur, c'est lui qui prend soin. Un petit extrait, il dit: « Connais-tu les lois du ciel ?» Il demande à Job dans 38-33. Fais-tu attention à la terre et à son organisation? Il demande ça à Job. Élèves-tu la voix jusqu'au nuage pour que les torrents d'eau se recouvrent? Envoies-tu les éclairs pour qu'ils partent? Te disent-ils, nous voici? Qui a mis la sagesse dans le secret du cœur? Ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? Qui peut avec sagesse compter les nuages et incliner les outres des cieux, pour que la poussière se fige et que le motte de terre se colle ensemble? Chasses-tu la proie pour la lionne et aperçu la fin du lionceau quand ils sont tapis dans cette tanière, quand ils demeurent dans les taillis comme dans un repère? Qui prépare au corbeau sa pâture quand ses petits crient vers Dieu, errant sans nourriture? Et vous voyez, vous allez continuer toute une... on dirait que Dieu ramasse un peu Job, hein, et puis il lui fait savoir, c'est moi le Créateur, c'est moi qui prends soin de tout, même si tu ne le vois pas dans des petites choses. Donc, nous sommes appelés, frères et sœurs, oui, à faire comme... sauvé par Dieu, par grâce en Jésus-Christ, et savoir qu'il nous, il va nous transformer, nous allons hériter une nouvelle demeure. Nous sommes exhortés à pouvoir faire en sorte d'y vivre sur ce monde en administrant bien ce qu'il nous a donné, surtout en ce qui concerne la création, l'environnement. Amen. Donc, prions. Merci Seigneur pour ce temps. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses nous aider, Seigneur, à pouvoir chercher des réponses dans ta parole, Seigneur. Et nous voyons que tu es le Créateur, tu prends soin de nous, tu prends soin de, Seigneur, de ta création aussi, Seigneur. Puis permets qu'on puisse vivre de façon, Seigneur, ordonnée, Seigneur, de façon responsable ici, Seigneur, sur cette terre. Et merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. C'est avec reconnaissance que nous venons vers toi, Seigneur, toi le Créateur du monde. Nous te prions tous au nom de Jésus, ton Fils. Amen.